On fait un petit test son. Ben voilà. Bienvenue à Dispac Dispar.
Au Centre Pompidou à Paris, ce sont les répétitions de la pièce Dispac Dispar de Patricia Alliot. On entre dans un dispositif quadrifrontal et c'est la metteuse en scène, assise à côté de nous, qui prend la parole pour ouvrir le spectacle.
Bon, on peut y aller. Bonjour, bienvenue à Dispac Dispar. Dispac, en breton, ça veut dire ouvert, défait, désordonné. Dispar, agitation, révolte, révolution. Au début, j'avais pensé appeler ce projet d'Igor Calon, qui veut dire, en breton, ouvrir son cœur. Calon, en grec, c'est beau, en breton, c'est cœur. D'Igor Calon, ouvrir son cœur. En breton, ça veut dire aussi apéritif. C'était d'ailleurs le nom d'une taverne où j'avais l'habitude d'aller à Perros-Guirec. Dispac, ouvert. Ouvrir des portes. Ouvrir des bras. Ouvrir des espaces. Ouvrir des mondes possibles. Ouvrir des bibliothèques. C'est en effet à la bibliothèque de la Goutte d'Or qu'entre novembre 2017 et février 2018, je rencontre Anour Mohamed. Ensemble, nous formons un tandem linguistique, initié par le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes et réfugiées. Il est déconseillé de se retrouver chez soi, parce que c'est trop intime. Il est déconseillé de se retrouver dans un bar, parce que c'est trop coûteux. Difficile hospitalité. D'emblée, l'inégalité est au cœur de notre relation. Inégalité des droits, inégalité économique, inégalité de liberté de circulation. Alors, heureusement qu'il y a les bibliothèques refuges. À Stalingrad, à Max Dormois, à Jaurès, à Beaubourg. Ou avoir chaud, ou se sentir à l'abri, ou ne pas se sentir menacé.
Il est 19h sur France Culture et voilà une nouvelle assemblée qui s'invente dans le spectacle Dispac Dispar. Patricia Alliot rassemble des interprètes et des acteurs de la société civile au centre des spectateurs pour penser ensemble la violence des politiques migratoires. Un jour, Patricia Alliot assiste au CICP, Centre International de Culture Populaire à Paris, au Tribunal Permanent des Peuples, créé en 1979. C'est une session consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées en Europe. De cette expérience politique naîtra l'envie d'une expérience théâtrale, d'ouvrir un espace pour s'écouter. Alors ici, plus de quatrième mur, on est dans une agora, au centre l'espace scénique, une carte de l'Europe qui se dessine petit à petit au sol et les bancs d'utopie sur lesquels on pourra s'asseoir. Il y a dans la pièce trois parties, l'état des lieux, l'acte d'accusation et les témoins. Parmi eux, Stéphane Ravaclé, boulanger de Besançon qui avait entamé une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen, Laïfodé Traoré. Parmi eux aussi, un petit miracle, ce matin-là en répétition, la présence du journaliste franco-afghan Mortaza Bebboudi. Depuis 2015, il est en exil en France et travaille à changer l'image des personnes réfugiées dans les médias. Il n'avait pas pu être là sur scène l'an dernier au Festival d'Avignon, emprisonné par les talibans en Afghanistan du 7 janvier au 18 octobre 2023 pour la simple raison qu'il essayait d'exercer son métier. Dans le spectacle Dispac Dispar, l'adresse au spectateur est directe. On est à quelques mètres de chacun, les récits sont écrits mais réels. Patricia Alliot réinvente l'agora au théâtre pour une expérience où on accepte de prendre du temps pour écouter. Elle, qui travaille depuis toujours sur la question de l'empathie, de la vulnérabilité, rêve, dit-elle, d'ouvrir des espaces de contagion affective. Si la société n'aime pas les vies fragiles, ici, elles ont à nouveau la parole.
Là, on répète la première partie, et même si c'est enregistré, on fait comme d'habitude, on s'arrête quand on a besoin, on se parle normalement. Mais peut-être qu'on attend quand même Bernardo pour commencer, non ?
Nous sommes donc en répétition au Centre Pompidou à Paris. Le spectacle de Patricia Alliot, Dispac Dispar, se jouera au Théâtre Sylvia Montfort du 21 au 31 mars, au TNB à Rennes du 10 au 13 avril, à la Comédie de Valence du 23 au 25 mai et les 30 et 31 mai à Saint-Brieuc. Le texte est édité au Solitaire Intempestif. Une partie de l'équipe nous a rejoints pendant la pause des répétitions.
Moi, c'est Bernardo Monté, je suis danseur et chorégraphe.
Stéphane Ravacli, boulanger et danseur.
Gaël Manzi, cofondateur d'Utopia 56.
Élise Marie, comédienne dans Dispac.
Patricia Alliot, autrice et metteuse en scène.
Mortaza Behboudi, journaliste et réalisateur indépendant.
Mortaza Behboudi sera sur scène dans Dispac Dispar après presque 10 mois d'emprisonnement en Afghanistan, dans les prisons des talibans qu'il avait accusé d'être un espion pour la France.
Non, c'est pas revu, ça.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. On vient de sortir de la répétition. Patricia Alliot, c'est un moment un peu particulier aujourd'hui parce que ce sont des retrouvailles avec Mortaza Behboudi qui n'avait pas pu être là au Festival d'Avignon et puis aux dates précédentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces retrouvailles aujourd'hui et ce matin ?
Oui, là, ce sont des retrouvailles assez extraordinaires, effectivement. Enfin, Mortaza, nous, on s'est revus cet hiver, mais c'est la première fois qu'on se retrouve toutes et tous ensemble sur scène. Et c'est très émouvant parce qu'effectivement, on a joué à plusieurs reprises où on faisait écouter la voix de Mortaza. Je parlais, Mortaza, de ton emprisonnement. On pensait à toi, c'était assez incroyable de voir comment le théâtre devenait aussi un lieu d'invocation, d'une présence absente et qui devenait ultra présente du coup, puisque c'était... Et donc on a beaucoup espéré ton retour et ce matin, ces retrouvailles sont très bouleversantes.
Pour moi aussi, en arrivant sur scène, j'avais un sentiment dithyrambique. Comme quoi, en fait, j'étais là il y a une semaine. Et reculer dans le temps, oublier tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois en prison en Afghanistan. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve ici sur scène à Pompidou, au lieu où, en fait, j'ai passé des moments difficiles dans ma vie à mon arrivée en France. Où en fait je cherchais sur internet quand j'étais un SDF
à la bibliothèque
à la bibliothèque du centre Pompidou sur internet je cherchais en fait un logement, un abri ou prendre une douche. Donc voilà, pour moi c'est très important en fait de raconter mon histoire ici à Pompidou.
Alors si on remonte un petit peu le temps et qu'on revient justement au départ de l'idée du spectacle Dispac Dispar, Patricia Alliot, vous dites que ça part de rencontres, donc on va en parler parce qu'il y a plusieurs de vos rencontres qui sont là, et puis d'une expérience politique que vous avez prolongée au théâtre, puisqu'en janvier 2018, vous vous retrouvez dans une salle au milieu d'une assemblée. Est-ce que vous pouvez nous décrire, avant de parler des rencontres, cette expérience-là au tribunal en janvier 2018 Tribunal permanent des peuples où vous assistez.
Oui, effectivement, c'était en 2018. C'est une période où, de nouveau, il y avait... Alors là, on est très préoccupé par la loi Darmanin, mais il y avait déjà des discussions et puis une aggravation de la situation en termes de politique d'accueil, où déjà, à cette époque, on pouvait même plus parler de politique d'accueil. Et donc, en tant que citoyenne, en fait, je participais à des manifestations et je lisais. Et puis, j'ai vu apparaître sur Internet qu'il y avait une session du Tribunal permanent des peuples sur la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées qui allait se tenir dans le 11e arrondissement, dans le CICP.
Et moi, vous en saviez quoi à l'époque de ce tribunal permanent des peuples ?
Rien du tout. Je me suis dit, c'est incroyable. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est philosophie politique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce tribunal permanent des peuples ? Je fais des recherches et je découvre qu'il existe depuis 1979 et qu'il y a eu des sessions à l'international. Qu'Angela Davis a présidé certaines sessions, que c'est en fait une sorte de tribunal des causes désespérées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une session sur la violation des droits du peuple palestinien, il y a eu une session sur la violation des droits du peuple arménien, et donc là, bah, ça m'intéresse énormément, je décide de m'y rendre, et c'est un lieu qui a déjà beaucoup compté pour moi dans la formation de ma conscience politique et de lutte, le CICP, puisque c'est là que je découvre aussi la lutte du collectif de la vérité pour Adama en 2016. Donc je sais qu'il va se passer quelque chose là-bas, que c'est un lieu très important à Paris, le CICP. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce à quoi j'allais assister. En fait, c'est un dispositif très intimiste, dans un espace qui est pas très beau, hein. On a l'impression d'être dans une sorte de classe, comment on dit, les préfabriqués un peu là. Mais se joue une sorte de petit théâtre populaire, c'est-à-dire que les personnes sont conviées dans un dispositif qui serait celui d'un tribunal où ce qui est en jeu, c'est l'accusation des États européens pour leur politique migratoire qu'on peut vraiment, je pense, appeler aujourd'hui des nécropolitiques, puisque les frontières tuent et nos démocraties sont responsables. Donc ce à quoi j'assiste, c'est cette mise en accusation des États européens avec des personnes de la société civile de tous bords.
Et vous dites déjà l'intuition, enfin la sensation que c'est un petit théâtre populaire, parce que voilà, c'est une assemblée de citoyens qui décident de se réunir. À ce moment-là, quand vous observez et que vous participez, est-ce que vous avez déjà l'intuition que justement il y a un prolongement possible et intéressant au théâtre ?
Alors, pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'écoute, je découvre, mais ça m'intéresse vivement. Parce que je suis très très liée au théâtre documentaire et donc à toutes les formes de théâtralité ou de rituels populaires qui parlent du théâtre en dehors du théâtre. Donc évidemment que ça m'intéresse particulièrement, mais j'ai pas du tout l'idée de faire quelque chose à ce moment-là. Par contre, très vite, oui, les mois qui suivent, j'y repense souvent et je me dis, ça serait formidable d'inventer un dispositif qui serait comme un prolongement scénique de cette forme intime à laquelle j'assiste. Parce que je me dis, mais c'est dommage, finalement, il y a très peu de monde. C'est-à-dire qu'on doit être 40, 50, très serré. Et je me dis, les mois qui suivent, vu ce qui se passe politiquement en Europe et en France, on aurait peut-être besoin d'avoir cet espace privilégié d'écoute. Parce que je pense que on dit souvent que le théâtre, c'est l'endroit d'où l'on regarde. Mais je crois que ce qui m'a saisie, c'est cette attention et cette qualité d'écoute. Et je me suis dit que bah, peut-être que si j'arrivais à créer un dispositif scénique où il y aurait cette même qualité d'écoute, avec la même représentativité, parce que c'est véritablement un espace démocratique aussi auquel j'ai assisté. Et c'est très vite, ce sont ces questions à la fois dramaturgiques et scénographiques qui se sont posées. Comment inventer un espace d'écoute ? Comment inventer un espace démocratique ? Et est-ce que le théâtre, ça serait pas ce lieu aujourd'hui privilégié où inventer cette qualité ? De rencontres. Nous avançons à tâtons l'un vers l'autre. Chaque rencontre est une renaissance, une découverte. Un jour, je lui demande ce qu'il a comme projet aujourd'hui. Il me demande ce que ça veut dire avoir un projet. Je lui donne des exemples un peu triviaux. Avoir le projet d'aller au cinéma avec des amis, avoir le projet de faire une balade en ville,
Lui, il réfléchit et il me dit qu'il a le projet d'avoir une vie douce. Et quand je lui demande ce que ça veut dire, avoir une vie douce, il me dit que c'est une vie sans violence.
Et aujourd'hui, dans la pièce d'Ispac, il y a trois parties. Il y a l'état des lieux, l'acte d'accusation et puis les témoins. Donc j'imagine que la présence des témoins et ces rencontres-là ont été très importantes dans la pensée, la construction du spectacle. Peut-être, Mortaza Bebboudi, est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre, je crois, dans un restaurant afghan avec Patricia Alliot et de votre échange à ce moment-là?
Alors oui, à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, en prenant un kabuli palau, c'est le plat national afghan, avec du riz, on donne des recettes aussi, donc du riz, carottes et raisins secs. Donc en mangeant ce plat, en parlant d'Afghanistan et tout ce chemin migratoire, en fait mon chemin, Patricia m'a parlé de ce théâtre documentaire, de son théâtre documentaire. Donc j'étais très intéressé parce qu'en fait à l'époque je faisais des reportages en fait pour humaniser les trajectoires des migrants, des réfugiés qui sont les exilés, en donnant la parole aller dans les camps à Paris, à La Chapelle, en Grèce, à Calais. Donc, je me suis dit, il faut participer, il faut être là. Donc, tout de suite, j'ai dit à Patricia, bien sûr que je serai là, je vais y participer, je veux raconter mon histoire aussi.
Parce que ces récits-là, comme vous le dites, ils sont importants pour vous, ils font partie de votre travail. Enfin, à la fois dans votre trajectoire, vous, je crois très jeune, votre famille est partie pour l'Iran. Et puis en 2015, vous arrivez en France, donc il y a ces histoires d'exil. Mais vous, ensuite, vous avez donné en tant que journaliste la voix à beaucoup de ces récits de migration, que ce soit à Lesbos en Grèce ou en France. Donc vous mettez en forme et vous les donnez à voir, ces récits. Mais là, il y a une rencontre au théâtre direct. Et d'ailleurs, il y a une adresse très directe, on va en parler, avec le public. Et qu'est-ce que ça change, ça? Qu'est-ce que ça apporte en plus?
Déjà, en fait, on espère, à travers ce spectacle remarquable, incroyable, que j'admire tout le temps, que j'en parle à tous mes amis et à tous mes collègues à travers le monde. Donc on espère en fait contribuer à un dialogue constructif en fait sur ces questions en fait cruciales qui touchent l'humanité, et qu'en fait on arrive à avoir des rencontres directes comme des espaces ici à Pompidou où en fait né à des espaces partagés, comme je dis, en fait, où SDF peut venir, tout le monde peut venir, et où, en fait, né à la compréhension, le changement, l'empathie et tout. Donc, ça, c'est cette rencontre directe-là qui me touche, en fait, en parlant directement aux gens. Et après, à la fin du spectacle, en fait, on parle aussi aux gens qui sont là, et en échange direct, qu'on peut changer, en fait, le regard sur l'immigration, qu'on peut changer, que dire qu'en fait, les immigrants, les exilés, ils sont pas là pour prendre notre travail. Quand j'étais dans la rue, SDF, personne ne voulait parler à moi parce que je sentais mauvais. Et ils pensaient qu'en fait, je demande de l'argent, mais non, pas du tout, en fait. Je demandais un verre d'eau, soit en parler, raconter mon histoire, sortir tout ça de moi. Parce qu'en fait, je connaissais personne à ce moment-là ici. Je parlais même pas la langue. Et tout perdu, j'imaginais même pas qu'un jour, je serai à la rue. Alors que j'avais un bon travail en Afghanistan, j'avais un bon salaire, j'étais menacé de mort, mon collègue a été décapité en Afghanistan en 2015, j'ai dû quitter l'Afghanistan, et d'ailleurs c'est la France qui m'a aidé de partir, et puis après, à mon arrivée, je me suis retrouvé dans la rue. Une nuit, j'étais dans le parc, j'étais assis à côté aux Invalides, en mangeant mon repas. Il y a une bénévole, elle est venue vers moi, elle m'a demandé pourquoi je ne parle pas, pourquoi je suis triste. J'ai répondu en anglais que je ne parle pas français et que je suis arrivé en France il y a 2 mois. Elle m'a répondu en anglais, j'étais tout content, mais j'ai raconté mon histoire en 30 minutes. Et puis après, elle m'a dit, je peux te donner une adresse. Une adresse, elle m'a écrit, c'était le centre Pompidou à la bibliothèque au bourg où je pouvais utiliser un ordinateur, chercher sur Internet l'information. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé l'adresse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un là-bas et elle m'a présenté à la Maison des Journalistes. C'est une association qui accueille les journalistes exilés politiques en France depuis 2001. Je suis allé là-bas, j'ai montré ma carte presse, j'ai raconté mon histoire. Et puis, ils m'ont donné un toit, une chambre de 8 mètres carrés. Ce soir-là, j'ai dormi sur un vrai lit. J'étais très fatigué, même sans douche. Cette nuit est passée, je me suis réveillé à 10h, 11h le lendemain. Je suis allé voir l'assistant social. J'ai demandé beaucoup de choses en anglais. Puis après, il m'a répondu. Il m'a dit, il vous faut un rendez-vous à la préfecture en français. Puis ce sont mes premiers mots en français que j'ai appris en fait.
Stéphane Ravaclé, quand vous êtes présenté au début de l'émission, vous avez dit boulanger et danseur. Ça fait combien de temps que vous êtes boulanger et combien de temps que vous êtes danseur ?
Mon Dieu, ça fait depuis 1985, je suis boulanger. Et j'ai la chance que Patricia m'a découvert depuis le début de la pièce, quoi. Et je ne devais pas avoir un rôle en danse, hein, vous voyez un peu comment je suis. Jamais j'aurais imaginé, non, j'aurais dû être simplement causeur en fait, parler de ce qui s'est passé en 2021, ma grève de la faim, et on m'a donné la chance en fait de danser, d'avoir un espace autre que la parole.
Alors peut-être certains auditeurs, auditrices ont en tête en effet votre histoire, parce qu'on l'a entendu dans les médias, vous êtes à Besançon, boulanger, et vous vous mettez en grève de la faim pour tenter de défendre et de pouvoir garder chez vous un apprenti boulanger qui est menacé d'expulsion, mm-hmm, et qui travaille chez vous. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a entendu parler de l'histoire, je crois que c'est dit dans le spectacle, il y a des gens qui vous ont écrit. En quoi la rencontre avec Patricia Alliot et cette proposition justement du théâtre et de la rencontre avec les spectateurs, ça vous a, vous, intéressé ?
Ben en fait, moi, ça faisait pratiquement 25 ans que j'étais enfermé dans mon fournil. Et à cette époque-là, on m'a donné une deuxième vie. C'est-à-dire que j'aurais jamais pensé en fait vivre autre chose que d'être boulanger. Donc lorsqu'on m'a ouvert la porte et qu'on m'a dit tu peux vivre autre chose, ben, je me suis engouffré dans la porte et voilà quoi. Donc je suis jamais rentré dans mon fournil ou presque. Donc forcément, pour moi c'est comme si j'avais eu comme si j'étais décédé un temps et qu'on m'avait redonné vie via mon combat en fait, et je le vis. À chaque fois qu'on se rencontre, je le vis pareil. C'est une deuxième chance de vie, en fait.
Et la rencontre même avec votre apprenti, Laïfo Des Traoré, que vous avez donc défendu, ça a ouvert déjà dans votre vie, j'imagine, une nouvelle étape. Parce que la découverte de ces vies-là...
Comme il y en a eu plein d'autres dans ma vie avant et après, mais en fait, il est rentré par la petite porte et c'est lui qui m'a donné la capacité de me révolter. Comme jamais je m'étais révolté dans la vie. Et de par cette révolte, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses. Et cette révolte a donné lieu à plus de 350 interviews. Cette révolte a fait que j'ai créé Patron et Patronne Solidaire, une association qui fonctionne encore, qui va à la rencontre des patrons avec la même problématique et de les aider. Voilà, et la rencontre avec Patricia via Élise Tout ça, en fait, a fait que je suis quelqu'un d'autre, c'est certain.
Patricia Alliot, est-ce que vous pouvez dire un mot sur le dispositif quadrifrontal, parce qu'on parlait d'assemblée, de ce tribunal permanent des peuples. C'est vrai que quand on arrive pour s'installer au début de la pièce, c'est pas tout à fait un dispositif auquel on est forcément habitué. Comment vous l'avez pensé ?
Ben, je l'ai pensé à l'origine du projet, c'est-à-dire qu'on répétait à l'automne 2020 au Théâtre de l'Orient, et je savais que je voulais une agora, un quadrifrontal, qu'il fallait déspectaculariser, qu'il fallait casser le quatrième mur, qu'il fallait sortir d'un dispositif frontal, de classique. Je ne voulais pas donner la sensation que ça soit un spectacle. Alors d'ailleurs, c'est un gros débat toujours dans la critique théâtrale, et dire que c'est pas vraiment un spectacle.
Comment vous l'appelez-vous ?
C'est pas vraiment du théâtre, etc. Ben, moi, j'aime bien dire que Dispac est une expérience, mais parce que je pense beaucoup à l'art comme une expérience. Mais ça me dérange pas qu'on dise que c'est un spectacle, parce que on a écrit à plusieurs la dramaturgie. Moi, j'appelle ça un diptyque. C'est vraiment l'écriture aussi d'un spectacle. Il y a une première partie qui est construite vraiment comme un spectacle. Il y a de la musique, il y a une création lumière, il y a une scénographie. Et puis, il y a cette bascule et il y a l'arrivée de la société civile sur scène, etc. Enfin, je ne vais pas décrire tout le spectacle, mais en tous les cas, cet espace, comme on dit souvent... comme on discute souvent aussi avec Bernardo Montet, la scène, c'est une aventure de l'espace et du temps. Et cet espace, effectivement, il est originaire. Je me souviens, quand on était avec Élise en train de répéter à Lorient, on avait déjà cette disposition. Et puis je rêvais déjà aux cartes, au sol. J'avais envie qu'on ait les deux pieds... qu'on ait tous et toutes les deux pieds sur la carte européenne, que la question de la traversée des frontières, elle soit là, tangible, et qu'il y ait cet espace commun. Et encore une fois, je pense que ça rejoint mon obsession d'amener ou d'ouvrir un espace démocratique. Et cet espace démocratique, il nous parle de cette question d'égalité. Et effectivement, il n'y a pas d'un coup les professionnels de la scène et les spectateurs en face. Non, on est toutes et tous ensemble et on se déchausse pour rentrer dans cette agora.
Et d'ailleurs, ça commence par votre parole et une adresse très directe à nous qui sommes là. Et vous parlez de l'intention même de ce spectacle, et vous parlez du sens des mots,
oui.
Et de ces mots qui sont notamment dans le titre, Dispac dispare. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ? Et Stéphane Ravaclet parlait de révolte, ça fait partie du
ouais.
titre.
Effectivement, le jour où on trouve un titre pour une pièce, ou pour un livre, ou pour un film, c'est un jour très important. Et je me souviens de ce jour-là, chez moi, où je l'ai trouvé. Et paradoxalement, c'est un titre en breton. Donc, Dispac, ça veut dire ouvert, défait, désordonné. Dispar, agitation, révolte, révolution.
Et vous, quand vous entrez, Stéphane Ravaclet, en tant que témoin, mais donc interprète et danseur, accompagné par Bernardo Montet, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez l'impression d'entrer justement sur une scène quand même, ou ou plus simplement au milieu d'une assemblée de personnes, et que, c'est quoi la sensation que vous avez ?
Alors, j'ai rarement le trac. J'ai dû l'avoir un peu à Avignon, parce que c'était pesant, hein, Avignon. Mais non, en fait, je sais qu'il ne va rien m'arriver de dur, que ce sera tout simplement que du bonheur. Donc, je le prends comme ça. Je le fais évidemment très sérieusement. Et comme je suis accompagné par Bernardo, je me laisse faire, en fait. Et je crois qu'on se laisse tous faire par Bernardo, par Élise et par Patricia. C'est eux qui nous mènent et on donne ce qu'on a à donner, notre vérité, et tout se passe bien.
Finalement, tu as cette architecturation juridique, et finalement, c'est jamais tellement narratif, même quand ce sont des exemples. Mmh. Donc du coup... Je pense qu'il faut plutôt en rester à une forme de droiture ou de...
De quoi ?
De droiture.
De droiture, oui.
Tu veux reprendre, non ?
Eh bien, je vais reprendre en mer.
Ok.
On peut se référer au refoulement de violents de personnes à la frontière gréco-turque, où la police et l'armée grecque, rejoints par une partie de la population et puis par des groupes fascistes, ont déployé ces deux dernières années un niveau de violence inédit. En mer, comme le long de la rivière Evros, leurs agents... et agentes provoquent des naufrages, tirent, blessent et tuent. On dénoncera également la législation espagnole autorisant les refoulements violents de personnes vers le Maroc, dans les enclaves de Ceuta et Melilla, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2015. En juin 2022, par exemple, une centaine d'exilés qui étaient bloqués dans les bois de Nador, proche de la frontière, sans accès au logement, sans accès à la nourriture, a tenté de passer illégalement la frontière. Une fois prisonniers dans l'enceinte grillagée qui sépare les deux pays, ils ont été bombardés de gaz lacrymogène, ce qui a entraîné des mouvements de panique et des piétinements mortels. La violence des agents marocains qui a laissé les prisonniers enchaînés pendant plus de 3 heures en plein soleil a causé aussi des morts.
Élise Marie, c'est vous qui portez l'acte d'accusation. Donc on vous écoute un certain temps pour justement, en 10 points, comprendre exactement... à quels endroits le droit des personnes migrantes sont violés, sont pas respectés. Mmh. Et ensuite, on bascule, parce qu'il y a quand même plusieurs modes d'adresse, justement, aux spectateurs ou entre vous. Et vous avez écrit une lettre à Stéphane Ravaclé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là ?
Alors, cette lettre, originellement, n'aurait pas dû faire partie de ce spectacle. Elle est arrivée en répétition... J'ai rencontré avec Patricia Stéphane vraiment pour le projet, pour l'inviter comme témoin. Et puis voilà, il y a cet autre lien que j'ai avec lui dans l'existence, un lien voilà, fort, existentiel avec lui, que j'ai découvert grâce à ce projet. Et quand il est venu répéter pour la première fois avec nous à Marseille, à Montevideo, où on travaillait, il est arrivé et je disais... À Patricia, que j'étais très impressionnée, parce que j'étais de toute façon très impressionnée depuis le début par sa lutte et par les gens qui s'engagent avec cette force, voilà, qu'il avait eue. Et Patricia m'a dit, enfin, je ne sais plus comment c'est passé, elle m'a dit, bah, écris-lui. Enfin, j'étais impressionnée, j'arrivais pas à lui parler. Stéphane est assez imposant, il faut le dire, il peut être impressionnant. Et j'ai écrit cette lettre la nuit. Et le lendemain matin, pendant qu'il improvisait avec Bernardo, voilà, quelque chose avec le corps, c'est la première fois aussi qu'il se mettait en mouvement avec Bernardo. C'était très beau et j'ai profité de ce moment où il me regardait pas, justement, pour pouvoir lui dire « j'ai envie de vous dire quelques mots » et j'avais besoin de le remercier. Et puis voilà, Stéphane a fait ce geste que vous avez vu tout à l'heure peut-être en répétition. Il m'a pris dans ses bras, c'était un moment assez fort, et puis bah, c'est resté dans notre projet. Et j'étais pas sûre au départ, et puis j'ai compris que ça fait aussi partie de cette aventure assez irréversible pour chacun d'entre nous, et même à mon endroit de comédienne, c'est un projet voilà, qui change quelque chose dans une existence. Et j'ai compris que tous ces fils qui sont... tissés entre nous, quels qu'ils soient, d'amitié, de rencontres, font aussi la force et la puissance de ce projet. C'est les êtres humains et humaines que nous sommes tous qui se relient aussi dans plusieurs strates artistiques,
militante, engagée et existentielle.
Vous avez plusieurs vies apparemment, Stéphane Ravaclet, mais vous êtes aussi donc magnétiseur et il se trouve que vous aviez rencontré le père d'Élise Marie. Mais c'est beau comme, en effet, comme vous dites, il y a plusieurs niveaux de relations, de soins finalement.
Oui, tout à fait.
Stéphane Ravaclet, vous êtes sans doute la dernière personne à avoir posé les mains sur cet homme que j'aimais plus que tout pour lui faire du bien. Et pour ça, je n'aurai jamais assez de mots pour vous dire merci. Car très vite après ce soin, d'autres mains se sont emparées de lui pour investiguer, PET scanner, perfuser, sonder, nourrir, changer, laver, déplacer, médiquer, morphiner, incinérer. Mais vous, Stéphane, vous aviez posé sur lui vos mains de boulanger, vos grandes mains bienfaisantes, vos mains magiques, vos mains de juste, vos mains d'homme debout.
Bernardo Monté, comment vous avez, à partir de ce dispositif quadrifrontal, de ces récits, il y a l'acte d'accusation, il y a les témoignages, comment vous avez imaginé justement les corps et le mouvement à l'intérieur de...
Avant le dispositif, il y a eu d'abord les rencontres. Donc la rencontre avec Patricia, d'abord en tant que spectateur. C'est un spectacle qui s'appelait Autoportrait à ma grand-mère. Et j'ai été très attiré, fasciné par son écriture, son rapport au théâtre, son rapport à l'artiste engagé qu'elle est. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur une dramaturgie pour une de mes pièces, où elle faisait donc la dramaturge, et c'était une rencontre magique. Et elle m'a proposé ensuite ce projet. Et on est allé à Besançon, et on marchait dans la rue, donc dans un but bien précis. Et par hasard, mais ça n'était pas un hasard, on rencontre Stéphane Ravaclet, et en le rencontrant, je dis à Patricia, j'aimerais beaucoup danser avec cet homme-là. Et elle me dit, tu ne crois pas si bien dire, c'est... On va travailler avec lui, c'est le boulanger dont je t'ai parlé. Donc la première rencontre s'est faite comme ça.
Et pourquoi vous lui avez dit ça ? J'aimerais beaucoup travailler avec
cet homme-là. Parce que ça, dès que je l'ai rencontré dans la rue, c'est la personne et je dirais sa corporéité, sa corpulence, mais aussi ce qu'elle incarne. Je connaissais pas toute l'histoire de qu'il avait avec son apprenti. Mais on sent qu'il y a une histoire de vie très forte au-delà de sa présence. Et il y a comme s'il y avait une autre personne, mais effectivement, qui sont là en présence. Et j'avais envie de travailler avec ce corps-là. Ouais.
Et comment vous avez travaillé ensemble, justement, une fois que vous étiez avec Stéphane Ravaclet
De manière très évidente, en fin de compte. Je pense que c'est un danseur, effectivement, au sens où... tout en étant boulanger, il pratique beaucoup, tous les jours, toute la journée. Il met son corps, il engage son corps dans une bataille, pas simplement avec son pétrin, mais aussi dans son engagement politique. Et ça résonne complètement dans ma manière, moi aussi, de concevoir mon rapport à la danse. Donc on s'est assez facilement entendu là-dessus.
Praying loud, it's dying blood.
C'était le morceau « Art Billy » de Léonie Pernet qu'on retrouve dans le spectacle de Patricia Alliot « Dispac dispare ». Nous sommes toujours en répétition avec l'équipe. Patricia Alliot, l'espace se transforme petit à petit parce qu'il y a cette carte qui apparaît avec des choses qui s'inscrivent. Et puis, il y a aussi, avant que les témoins arrivent et qu'il y ait ces récits-là, les bancs d'utopie qui sont installés et sur lesquels on peut s'asseoir. Pourquoi ce mot « utopie » était important pour vous à un moment donné, j'imagine, à prononcer et puis à ancrer dans le spectacle ?
Parce que je pense qu'on a un besoin viscéral d'inventer un autre monde et qu'on est en train de tous asphyxier dans la société qui s'invente et dans la fermeture des frontières. Et le contenu que l'on traverse dans l'acte d'accusation est extrêmement violent. Ce dont on est en train de parler, on est tous et toutes témoins, en grande partie impuissantes, malgré nos engagements respectifs, petits ou grands. Je me suis dit qu'il fallait se servir peut-être du théâtre et de cet espace théâtral comme d'un levier de résistance, et qu'on avait vraiment besoin de croire à d'autres possibles. Et donc, ce n'est pas qu'un théâtre politique et militant, c'est un espace d'utopie où se relier à des mondes possibles. Et les mondes possibles, je ne les vois pas comme des mondes lointains ou grandiloquents. Pour moi, c'est le monde qui est là, qu'on invente ensemble, ici et maintenant, avec la communauté des spectateuristes, mais avec notre communauté de Dispac, qui a fini par former une petite famille ou une communauté, et où l'endroit de l'utopie, je le relie à quelque chose de très modeste, en fait. C'est-à-dire, je crois que les utopies ou l'utopie à laquelle je suis rattachée, moi, c'est l'invention d'un espace sensible où les vulnérabilités, les fragilités de chacune et chacun pourraient s'exprimer. Et dans un espace d'écoute et d'attention. Et c'est là que je pense que cette utopie théâtrale rejoint l'utopie politique. Et que c'est inventé... Pardon, j'en perds ma voix... C'est inventer un espace de co-fragilité, de co-vulnérabilité, mais où la dimension menaçante qui existe en permanence serait levée momentanément. Ce dont parlait très bien Stéphane tout à l'heure, de la confiance qui règne. Et c'est pas si commun d'inventer des espaces de confiance. Je pense qu'on le vit dans l'amour. Et donc peut-être que Dispac parle d'amour, en fait.
Et comment vous avez rencontré Gaëlle Manzi, pour qui le mot utopie est aussi important, Patricia Alliot?
Alors Gaëlle, c'est toujours très émouvant pour moi à chaque fois que Gaëlle est là sur scène, parce que c'est la première, le premier témoin du projet que j'ai rencontré. On répétait à Lorient et je rêvais d'un projet un peu nomade, où dans chaque ville on serait lié à des témoins ou des témouines. et je me suis dit, tiens, mais à Lorient il y a les cofondateurs ou cofondateuristes d'Utopia 56. Et puis voilà, c'est comme avec Mortaza. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux pour se connecter. Mortaza, je crois que je t'avais contacté comme ça, via les réseaux. Je t'avais entendu faire une déclaration. C'était quasiment une déclaration sur le camp à Saint-Denis. J'avais trouvé ça incroyable. Et puis Gaëlle, c'est pareil. Je me suis dit, mais c'est incroyable, cette histoire d'Utopia 56. Donc, je t'ai contacté par les réseaux.
C'est quoi Utopia 56 ?
Est-ce que vous pouvez dire pardon. Utopia 56, c'est une association qui existe depuis 6-7 ans maintenant.
Ouais, c'est ça.
Peut-être que tu peux te dire ce que c'est Utopia 56. Je crois que tu en parles mieux, plus précisément que moi.
Utopia 56, c'est une association qui s'est créée pour mobiliser les citoyens pour venir en aide aux personnes exilées en France. Voilà, c'est juste ça à la base, c'est une mobilisation de citoyens pour venir en aide aux personnes exilées.
Et quand vous rencontrez Patricia Alliot, Gaëlle Mandy, puisque vous êtes donc une des premières rencontres, et qui a cette idée possible de prolongement théâtral et de faire partie des témoins, qu'est-ce que vous pensez ?
Bah, je pense pas grand-chose au début, parce que c'est un message Facebook, je le comprends pas trop. Parce que je suis vraiment fatigué et je comprends pas trop de quoi il s'agit. À cette période-là, je suis malade, je tombe malade et je quitte mes fonctions dans Utopia. Et je vois ce message-là, c'est parmi les derniers messages que je vois, et je dis, bon, c'est le dernier truc que je prends à Utopia. Et puis, 4 ans après, je suis dans ce projet de théâtre avec toute l'équipe, là, c'est magnifique. Et c'était quelque chose que je voulais déjà faire et que je faisais déjà, c'était témoigner, sensibiliser, c'est une partie de notre mission à Utopia. Pour que les gens ils se rendent compte de ce que vivent ces personnes au quotidien en France. Et puis le théâtre et le projet de Patricia, il m'a ouvert cette porte-là, une autre façon de témoigner et de parler à beaucoup de personnes pour leur faire ouvrir les yeux sur les conditions de vie de ces gens.
Je me rappelle, moi, quand tu es arrivé, que tu as témoigné, Gaëlle, pour la première fois qu'on a filmé au Théâtre de l'Orient. Et c'était interminable, en fait. C'est-à-dire, t'avais tellement à dire. Je pense qu'on est resté 3 heures ensemble. Et ce qui m'a marqué énormément, au-delà du contenu, que je pourrais aussi résumer, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a la dimension humanitaire, et c'est le passage de l'humanitaire au politique. C'est vraiment cet endroit qui est aussi très fort dans ton récit, qui est le récit d'Utopia, mais qui est aussi ton récit. Et c'est pour ça que c'est hyper fort aussi, parce que ce que tu as vécu à Calais, c'est ce passage, cette bascule de l'humanitaire au politique, et qui est, comme tu dis souvent, dans la définition même d'Utopia 56, et qu'il y a eu un passage à la désobéissance civile.
L'ADN d'Utopia, c'est de faire ce que les autres ne font pas, et là où on identifie des besoins. À cette période-là, c'était le bidonville le plus sale d'Europe. Donc on s'est retroussé les manches et on s'est dit, on va ramasser les déchets. J'ai souvenir d'un matin où on était exténués, surtout moi d'ailleurs, exténués, il pleuvait, j'en pouvais plus. Et je me suis assis sur mon sac poubelle rempli, il était 10h du matin, et il pleuvait. Et là, un shelter, c'est un petit endroit, une petite cabane qui avait été construite par les Anglais pour faire office de lieu de vie pour les gens qui vivaient dans ce bidonville. Et là, la fumée sort de la cheminée, et il y a deux personnes afghanes qui sortent de ce shelter et qui me regardent et qui m'invitent à boire le thé. Ils me racontent un peu leur récit de vie. Et voilà, on partage un bon moment. Ils me redonnent un peu d'énergie pour continuer ma mission. Et motiver les équipes. J'ai vu plus d'humanité et de solidarité dans ce bidonville que j'en ai vu dans toute ma vie dans la société française.
Mais c'est vrai qu'il y a un effet de réel, évidemment, très fort, puisque tout est écrit et la structure est très forte. À l'intérieur de ça, les récits sont aussi écrits, et d'ailleurs, c'est le spectacle, la pièce ou l'expérience, je ne sais pas comment il faut dire, mais est édité, le texte est édité au solitaire intempestif. Mais en même temps, le spectacle évolue, parce que là, vous disiez en répétition, Patricia Alliot, au Centre Pompidou, il y a un soir où vous serez 5 témoins, un soir où vous serez 3. Au Festival d'Avignon, de fait, Mortaza Behboudi ne pouvait pas être là puisqu'il était enfermé en Afghanistan. Donc, comment le réel, à chaque fois... vient bousculer l'écriture la structure et comment ça vient peut-être remettre en jeu des choses au présent.
C'est exactement ce que vous venez de dire, ça remet quelque chose de l'enjeu au présent, et donc face à tout ce qui bouge tout le temps, je dis toujours, bon, il faut pas trop se stresser, parce que évidemment, habituellement et spontanément, c'est plutôt la réaction qu'on a, parce qu'on a envie que tout tienne, que ça soit écrit et répété. Et puis là, bah non, finalement, j'apprends que telle personne ne sera pas là parce que les personnes ont aussi d'autres activités, d'autres engagements. Donc même s'ils disent pas que tout le monde est très engagé, il y a de la concurrence ailleurs. Et donc on se retrouve effectivement à trois. Et là, j'étais pas complètement au courant, par exemple, de tout. Il y a très peu de temps. Et puis après, je me dis, finalement, c'est pas si grave parce que là, Falmarès va être là. Il n'a pas été là depuis la création, il y a 3 ans. Et entre-temps, le présent et la vie, ça apporte plein de transformations. Et Falmarès, il a écrit, il a publié un livre, Catalogue d'un exilé. Et au lieu de lire un poème, il pourrait peut-être en lire plusieurs. Voilà un exemple d'adaptation permanente. Et puis après, c'est une décision. Je me suis dit, ce spectacle ne doit pas être complètement un spectacle clos sur lui-même. Il faut qu'il y ait toujours cette porosité du réel. Donc, il faut que je commence par moi-même. Il faut que je me mette à l'épreuve aussi. Et qu'il y ait une cohérence dans le projet. Et qu'on ne cède pas à notre désir de confort. Que tout soit bien bien écrit, qu'on soit dérangé aussi. Donc dans chaque ville, il y a des témoins nouveaux qui surgissent et que je ne connais pas encore totalement là dans la tournée qui arrive. Donc des fois je me dis tiens, je fais des recherches, j'appelle. Je suis allée à la manifestation la semaine dernière pour la Palestine et pour contre la loi Darmanin. J'étais toute seule et puis d'un coup, j'ai entendu un garçon qui m'a frappée par son intensité de présence. Et j'ai dit en riant à Élise, j'ai fait un casting sauvage. C'était pas du tout mon intention, j'allais juste manifester. Et en fait, j'ai juste suivi mon feeling, je suis allée le voir. Et en fait, il travaille à la coordination des sans-papiers d'Île-de-France à Montreuil. Et j'ai envie de l'inviter au théâtre Sylvia Montfort. Et je lui ai dit juste très très vite, en fait moi j'organise quelque chose où il y a des témoins, est-ce que ça vous intéresserait de venir parler? Il m'a dit oh pourquoi pas, et là je lui ai pas écrit encore, mais je sais que c'est un processus et qu'il faut être aux aguets comme ça de ces moments. On est une équipe de base, mais c'est un endroit, ça s'appelle Dispac Dispar. Et je pense que le mot, le signifiant maître, c'est ouvert. Donc il faut rester, il faut que cette forme soit ouverte au dehors.
Et Mortaza Bebboudi, je me demandais, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, ce sont en effet des retrouvailles et vous revenez donc sur scène et dans le projet Dispac après ces presque 10 mois d'enfermement, d'emprisonnement en Afghanistan. Vous étiez emprisonné du 7 janvier 2023 au 18 octobre 2023. Ce récit-là, vous l'avez écrit, travaillé avant avec Patricia Alliot. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour vous dans votre présence, la façon dont vous avez envie de partager les choses?
Oui, d'ailleurs beaucoup, parce que déjà, la situation a changé totalement en Afghanistan depuis. Je parlais avant le retour des talibans, la situation en Afghanistan, malgré des attentats contre la minorité des Hazaras, persécutée depuis des années, je fais partie, les Hazaras en Afghanistan. Donc aujourd'hui, ils sont de plus en plus menacés, les femmes, la situation des femmes afghanes, aujourd'hui en Afghanistan, arrêtées arbitrairement et torturés tous les jours parce que voilà depuis 2 ans l'arrivée des talibans, donc là on aimerait en fait en parler encore parce que on passe d'un conflit à l'autre déjà et on oublie les iraniennes, on oublie les afghanes, on oublie les ukrainiennes, on a oublié voilà Yémen et les autres. On parle aujourd'hui d'un autre conflit atroce à Gaza, donc ce changement-là, j'aimerais raconter, en parler, surtout en moi, parce que j'ai vécu vraiment quelque chose que j'imaginais jamais dans ma vie, vivre ça, enfermé, torturé. Et oui, c'est vrai, j'étais menacé à l'époque, en 2015, quand j'ai dû partir d'Afghanistan. J'étais menacé, mon collègue a été décapité. Et alors, cette fois-ci, c'était moi qui... Et ils allaient me tuer. Et finalement, les médias m'ont sauvé. Parce que ils ont parlé, la mobilisation, même au Festival d'Avignon, qu'ils ont parlé aussi, à travers ce spectacle, quand on dit, le lieu des rencontres. Quand... J'ai fait beaucoup d'amis à travers ce spectacle. On a tissé des liens avec Élise, Bernardo, Stéphane, Gaël, Marie-Christine, Falmarès surtout. Et voilà, en fait, j'aimerais en fait raconter tout ça, en fait, ce changement en moi, d'ailleurs, raconter plus, aller dans les détails, des moments où j'ai passé, en fait, dans la rue, parce que quand on voit un SDF, on a pas envie de parler à un SDF, on n'a pas envie de parler à un migrant, et là, ce spectacle-là qui donne la parole, en fait. Pour la première fois qu'un migrant, un exilé parle, qu'on a besoin d'entendre en fait ces gens-là. Et cette rencontre directe avec les spectateurs et spectatrices qui viennent nous entendre, et c'est ça que c'est le plus important pour moi. Parler directement. Parce que on a beaucoup entendu depuis la crise syrienne en 2015, les bateaux arrivent, les migrants arrivent, ils arrivent, même les titres, ça me faisait peur à moi, alors que j'étais un demandeur d'asile à ce moment-là. Et aujourd'hui, qu'il faut changer à travers ces initiatives, changer le regard sur l'immigration.
Stéphane Ravaclé, vous disiez tout à l'heure, le Festival d'Avignon, c'était un peu pesant. Comment vous vous sentiez justement après la rencontre directe avec les spectateurs et spectatrices quand vous sortiez à la fin du spectacle qui dure 2h30 à peu près ?
En fait, j'ai une faculté de me dire que je me... de me rendre compte de ce que je vis à l'heure actuelle. Donc, chanceux, extraordinairement chanceux, parce que dans ma vie, dès ma naissance, je n'aurais jamais dû connaître tout ça. Je suis fils de paysan, j'ai pas été très à l'école, j'ai fait un apprentissage, mais en tant que boulanger, j'aurais jamais dû rencontrer Patricia, je n'aurais jamais rencontré la troupe. Et je me dis que j'ai le droit à une deuxième vie, et je la mange tous les jours, en fait. J'ai débuté par une grève de la faim, et maintenant je mange tous les jours ce qu'on arrive à me donner, quoi.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Sandrine Malon, au mixage Stéphane Touvenin. Thank you.